Chapitre 11. Tandis que le petit groupe traversait le camp, Callan croisa le regard de jeunes hommes qui nettoyaient leurs armes, réparaient leurs équipements, surveillaient la forêt environnante ou grignotaient un morceau avant de dormir pendant quelques heures. Elle sourit à ses braves, leur assurant qu'elle allait très bien et qu'ils ne devaient surtout pas s'inquiéter. Callan connaissait presque tous ses combattants par leur nom. Comme elle et avec elle, ils avaient livré une longue et dure guerre contre l'ordre impérial, et ensemble, ils avaient vaincu. Enfin, provisoirement. Car la victoire comme la paix n'avaient été qu'illusion. Les causes profondes de cette guerre, souvent presque invisibles, n'avaient jamais disparu. Et bien entendu, elles avaient fini par produire les mêmes effets. Toute sa vie durant, ou presque, Callan avait connu la guerre. D'abord contre Darkenral, puis contre Jagang et l'ordre impérial, et enfin contre Sulakan, un empereur mort depuis des millénaires de retour à la vie pour finir le sale travail commencé de son vivant. Ces soldats de la première phalange étaient venus dans les terres noires pour protéger Richard et Callan et les ramener au palais du peuple. Une mission qui aurait dû être facile après la victoire du sourcier sur la Pitié Silence. Hélas, toute l'aventure avait tourné au cauchemar. Au bout du compte, la Pitié Silence s'était révélée être l'avant-garde des forces maléfiques qui avaient enfin réussi à se libérer de leur prison. Son contact méphitique avait privé Richard de son don et Callan de son pouvoir. Une perte irréparable pour la jeune femme. Née avec son pouvoir d'inquisitrice, elle le considérait comme une part d'elle-même, et voilà qu'elle en était coupée. Le camp était parfaitement tranquille, afin que les hommes qui n'étaient pas de garde puissent profiter d'un sommeil réparateur. Jetant un coup d'œil au feu de camp, Callan vit que le prisonnier, solidement entouré, ne risquait pas de s'en aller. En l'arpentant, l'inquisitrice découvrit que le camp avait été dressé au pied d'une grande muraille rocheuse, sur une butte assez étroite mais très longue et dépourvue de végétation. Pour alimenter les feux, les hommes étaient allés couper des arbres un peu plus loin après le départ des demi-humains. Le bois étant vert, il produisait une âcre fumée et des flammes crépitantes. Cette position élevée s'était révélée idéale pour contenir des agresseurs. D'autant plus que la muraille rocheuse, incurvée, fournissait aussi des défenses naturelles sur les deux flancs. Massés les uns contre les autres, les soldats formaient une sorte de haie d'acier et il était très facile de combler les brèches quand, par malheur, il s'en produisait. Pareillement, en cas d'attaque concentrée sur un seul côté, les renforts n'avaient aucun mal à accourir. Cette stratégie de la place forte impliquait que tous les hommes restent ensemble et ne se quittent pas d'un pouce. Pas question donc d'avoir des sentinelles avancées ni des patrouilles. Du coup, impossible d'être prévenu d'une attaque. Tout désavantage ayant sa contrepartie, cette configuration privait l'ennemi de cibles isolées, telles que des avant-postes ou des éclaireurs, et quand on disposait d'assez peu d'hommes, les préserver au maximum était toujours une bonne stratégie. Grâce au feu, les gardes pouvaient repérer tous les éventuels intrus dès qu'ils émergeaient de la forêt. C'était sûrement comme ça que les soldats avaient fait leurs prisonniers. En règle générale, une configuration défensive si resserrée n'était pas recommandée, car l'ennemi pouvait approcher relativement près à la faveur de l'obscurité et profiter des feux de camp pour lâcher des flèches ou des lances sur des cibles très bien éclairées. Mais les Shuntuk n'utilisaient pas d'arc et de lance. Dans ces conditions, pourquoi aurait-on dû exposer des sentinelles et des éclaireurs face à un taureau qui charge s'encombré de subtilités ne servait à rien? Voyant approcher Richard et ses compagnons, plusieurs soldats s'écartèrent pour les laisser apercevoir le prisonnier. À genoux près du feu, le demi-humain était flanqué par deux colosses qui lui immobilisaient les bras, le dissuadant de bouger. Un troisième homme, encore plus impressionnant, écrasait de ses pieds bottés les deux mollets du Shuntuk, les clouant au sol. Blond comme la majorité des Darans, le lieutenant Jake Pfister était le plus haut gradé du détachement depuis la mort tragique de Benjamin Meffert. Des bras au moins aussi gros que la taille de Callan, un coup de taureau, ce type n'avait jamais été un tendre, et la mort de son chef lui avait encore endurci le cœur. Debout derrière le prisonnier, il ne se contentait pas de lui immobiliser les jambes, mais il lui plaquait un couteau sur la gorge. histoire de faire bonne mesure. Cinq ou six archers braquaient leurs armes sur le demi-humain. Jack Pfister était une vieille connaissance de Callan. Lors de la guerre contre l'ordre impérial, il avait servi sous le commandement du capitaine Zimmer dans la force spéciale dont l'inquisitrice avait pris la tête. Chaque matin, Zimmer lui apportait un collier d'oreilles fabriqué la nuit précédente. Sergent à l'époque, Jack Pfister était un des hommes de confiance de Zimmer et un grand collectionneur d'oreilles devant le créateur. Les maraudeurs étaient fiers de ce qu'ils accomplissaient lors de leurs raids nocturnes au cœur des lignes ennemies. À leurs yeux, chaque oreille représentait un adversaire de moins susceptible de les tuer. Comprenant le symbole, Callan avait toujours traité avec le plus grand respect les sinistres trophées de ses héros, et il lui en avait gardé une reconnaissance éternelle. Tout ça semblait si loin. En ce temps-là, Richard était dans l'ancien monde. Prisonnier de Nietzsche qui combattait alors pour l'empereur Jagang. En l'absence de celui qui serait un jour son mari, l'inquisitrice avait mené la guerre à sa place. Durant sa captivité, Richard avait peu à peu appris à Nietzsche la valeur de la liberté et de sa propre vie. Ayant toujours été privé de son libre arbitre, l'ancienne maîtresse de la mort avait changé de camp, devenant une alliée fidèle et fiable du sorcier. Désormais colonel, Zimmer était en poste au palais du peuple dans la première phalange où Jack Pfister, promu lieutenant, servait également. Connaissant sa valeur, Benjamin Meffert l'avait choisi pour la mission de sauvetage. Avec la mort de Ben, Zimmer avait toutes les chances d'être le prochain chef de la première phalange, mais il ne s'en réjouirait pas, le cœur brisé par la mort d'un de ses meilleurs amis. Malgré les flèches braquées sur lui, si le prisonnier bougeait, le lieutenant Pfister l'égorgerait avant même qu'un archer ait songé à tirer. Vêtu en tout et pour tout d'un pagne, avec beaucoup de ses congénères, y compris les femmes, le Shuntuk avait le crâne rasé et arborait une touffe de cheveux tenue droite par plusieurs colliers de dents humaines. De près, Callan vit que la peau de l'homme avait dû être enduite d'une sorte de pâte, composée de cendres et de quelques ingrédients conçus pour améliorer son adhérence afin que le contact avec les broussailles et la pluie ne la fasse pas partir. Apparemment, le demi-humain devait souvent se repasser le mélange sur le corps, car à certains endroits, il était très frais et un peu craquelé, comme si les différentes couches ne collaient pas bien ensemble. Comme tous les Shuntuk que Callan avait vus, celui-ci avait les yeux cernés de noir, et on eût dit qu'une tête de mort vous regardait. Le sourire peint sur ses lèvres était également celui d'un squelette. Même maîtrisé par plusieurs colosses, il restait impressionnant, comme si sa capacité de nuire n'était pas totalement neutralisée. Dès qu'il vit Richard, le demi-humain prit une expression menaçante, comme celle d'un loup pris au piège mais toujours résolu à lutter. Bien que dans une situation désespérée, il ne semblait pas effrayer le moins du monde et bouillait d'envie de se battre. À sa place, songea Callan, elle aurait accordé bien plus d'attention et de respect au couteau que Jack Pfister lui plaquait sur la gorge.